Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Corée du Sud se mettront d'accord sur les 6 accords de coopération. L'Indonésie, la Malaisie et l'Australie ont déclaré un syndicat de la contrebande humaine dans l'ASEAN. L'Indonésie et la Chine ont prévu la fusion de la société de poissons. Riau aura un laboratoire international de la tourbe. Le Moyen-Orient est un marché potentiel pour l'Indonésie. Le café indonésien existe de plus en plus en Égypte. Charami nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo fera une visite bilatérale en Corée du Sud du 15 au 18 mai 2016. Il y aura 6 accords de coopération qui seront signés par les deux pays, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, mardi à Jakarta. 6 accords de coopération, entre autres dans le domaine des industries créatives, la gestion de la tourbe, l'éradication de la corruption, les sports, le transport et la conception de la technologie. Selon Madame Retno Marsudi, la visite de Jokowi en Corée du Sud sous l'invitation du président Park Geun-hye, le président assistera aussi à une réunion d'affaires avec des investisseurs de l'État ginseng. Selon le plan, il y aura un forum d'affaires qui sera assisté par 20 grands hommes d'affaires sud-coréens. La plupart sont des hommes d'affaires qui ont investi et ajouteront les investissements en Indonésie. Jokowi sera également le conférencier d'honneur à la conférence sur le leadership asiatique qui se tiendra à Séoul. Le président prononcera un discours sur le thème du leadership et d'innovation. La coopération entre l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie a réussi à identifier l'un des réseaux de la contrebande humaine dans l'ASEAN. Le chef de l'agence d'investigation du commissaire général de la police, M. Anang Iskandar, a déclaré mercredi que ce réseau existe en Indonésie et en Malaisie. Et la police a identifié le leader du syndicat qui avait initial S. Selon lui, la naissance de la coopération entre les trois pays en raison de la tension qui se produit souvent. Il estime que le renforcement de la coopération peut contrecarrer la contrebande humaine dans la région de l'ASEAN. Le commissaire adjoint de la police malaisienne, le commissaire adjoint de la police Ni Abdul Aziz bin Ni Abdul Rajak, a déclaré dans une conférence de presse que le royaume de la Malaisie continuera de faire des échanges d'informations plus profondes avec l'Indonésie et l'Australie afin de minimiser les activités de contrebande. L'officier de liaison de la police fédérale australienne, Andrew Perkin, a déclaré qu'il espérait l'Indonésie et la Malaisie pourraient inviter les pays de la région de l'ASEAN et à l'extérieur de la région pour résoudre ce problème régional. Le gouvernement indonésien et la Chine ont discuté de la fusion de la société de poissons pour éviter la pêche illégale dans certaines régions de l'Indonésie par la Chine. Le ministre de coordination des politiques juridiques et sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan, a affirmé à Jakarta que le gouvernement indonésien étudiait ces règles. Il a dit que l'Indonésie n'avait pas de territoire frontalier avec la Chine. Sur la base de la ligne internationale, n'importe quel pays peut entrer en Indonésie, mais en ce qui concerne les problèmes économiques, les pays étrangers doivent demander la permission à l'Indonésie. Luhut Binsar Panjaitan a ajouté, il discuterait de la possibilité de fusionner la société avec la ministre de la Mer et de la Pêche, Madame Susi Pujiastuti. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La province de Riau aura immédiatement un laboratoire international de la tourbe après l'existence du projet de la signature du protocole d'attente entre l'Agence de la restauration de tourbe ou BRG et des chercheurs japonais à la fin de mai 2016. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur par intérim de Riau, M. Arsa Juliandi Rahman, à Antara, à Pekanbaru, mardi. Il a expliqué que le laboratoire de la tourbe serait concentré sur la région des îles Meranti, précisément sur l'île de Tebing Tinggi, la ville de Sungai Tohor. Il a dit BRG et le gouvernement provincial de Riau avaient coordonné avec un certain nombre de chercheurs de l'Université de Kyoto du Japon, National Institute for the Humanities et l'Agence japonaise de la coopération internationale ou JICA pour réaliser ce projet. Arsa Juliandi Rahman a déclaré que les chercheurs japonais avaient donné les réponses positives liées à ce plan qui est prévu pour être signé en mémorandum d'attente à Jakarta à la fin de mai 2016. Selon lui, l'équipe de recherche du Japon se rendra à Riau pour coordonner avec BRG pour réaliser la construction du laboratoire de la tourbe à l'échelle internationale. Le ministre indonésien des Finances, M. Bambang Brojonegoro, a affirmé que le Moyen-Orient pourrait être un marché potentiel pour l'Indonésie, qui devient actuellement l'un des pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. Nous pouvons trouver la diversification des marchés et d'exportation au Moyen-Orient en invitant les touristes de cette région pour que l'Indonésie obtienne son impact positif, a déclaré le ministre Bambang. Ainsi, l'Indonésie va profiter de l'élan en tant que l'hôte de la séance annuelle de la Banque islamique de développement du 15 au 19 mai et du Forum économique islamique mondial du 2 au 4 août 2016. Qui seront assistés par les délégations gouvernementales et le secteur privé. C'est une stratégie de l'Indonésie de trouver le réseau et d'être plus proche avec les pays du Moyen-Orient et les pays africains avec la plus grande population musulmane. Le président de la fondation de WIF, Tun Musa Hitam, a déclaré que l'Indonésie pourrait être l'hôte idéal parce que l'Indonésie a des similitudes avec le thème de WIEF 2016, à savoir décentralisation de croissance, autonomiser les futures affaires, et selon lui, l'Indonésie est un marché en pleine croissance avec des fondamentaux économiques solides et possède un certain nombre de PME qui ont le potentiel de se développer à l'échelle internationale et d'ouvrir plus de possibilités pour faire des affaires avec la communauté globale. L'Indonésie a participé au deuxième salon commercial de nourriture d'Afrique 2016 au Caire, en Égypte, qui a été officiellement ouvert par le ministre du Commerce de l'Égypte, Tariq Kabel. Le salon, qui a eu lieu du 4 au 8 mai 2016 au Caire Convention Center, le Caire, a été assisté par 240 exposants et visité par environ 15 000 personnes. Les visiteurs pouvaient goûter le café Arabica et Robusta à partir des meilleurs grains de café de l'Indonésie provenant de Sumatra, Java, Bali, Flores, Sulawesi et Papouasie. Les exportations de café de l'Indonésie à l'Égypte, selon le rapport de l'agence statistique CAMAS, l'Égypte se classe encore au premier rang, qui atteint 34,18 millions de dollars américains en dernières années. Les importations totales de l'Égypte dans le monde à 64,72 millions de dollars américains. L'ambassadeur d'Indonésie au Caire, M. Helmi Fauzi, soutient le salon commercial qui présente des produits de grains de café indonésiens, des produits de café transformés, l'huile de palme et ses dérivés, ainsi que des produits de collation. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'élection du président des Philippines ». Lundi 9 mai 2016, le peuple philippin se rend aux urnes pour élire le président. 55 millions de personnes dans le nord de l'archipel indonésien étaient appelées aux urnes. Un candidat à la présidentielle, Rodrigo Duterte, 71 ans, le maire de Davao, est connu pour les déclarations controversées. Deux concurrents, Rodrigo est une femme, la sénatrice et la fille de la star de cinéma des Philippines, Grace Pu. L'autre est un ministre en vertu Aquino, Manuel Roxa, qui est aussi la petite-fille du premier président des Philippines. La constitution philippine ne reconnaît qu'un seul système de tour des élections, donc celui qui a remporté le plus de votes deviendra président. Les élections présidentielles aux Philippines cette fois est également suivie par l'élection du vice-président. Bien que l'élection soit tenue dans le même temps, l'élection du vice-président a été menée séparément. Le fils de l'ancien président Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., a une grande opportunité élu vice-président. S'il a remporté le plus de votes, les familles Marcos est devenue sur la scène politique des Philippines après la révolution du peuple qui les a chutés il y a 30 ans. Pour sauvegarder les élections, la police des Philippines a mobilisé 100 000 personnes. Il est également afin de garder l'atmosphère des élections, car on a également organisé les élections des dirigeants locaux. L'élection est marquée par des accidents de violence avant la mise en œuvre de l'élection générale. Le samedi, une personne indépendante, Armando Ceballos, qui a avancé au maire, a été tuée par des hommes armés qui ont attaqué sa maison. Le matin, le même jour avec l'élection, 7 personnes ont été abattues. Il y a souvent la violence dans la politique des Philippines parce que le candidat à la présidence, Duterte, a souvent émis des opinions controversées. Dans le calcul provisoire, Duterte a gagné plus de 13 millions de voix. Manuel Roxa a obtenu 7,9 millions de voix et le sénateur Grespo 7,6 de voix. Pu, avec l'humilité, a admis la défaite et appelé toutes les parties à soutenir Duterte s'il est élu. Duterte invite ses rivaux à travailler ensemble pour unir toute la différence lors de l'élection, bien que quelques heures plus tôt, les partisans du parti du gouvernement qui soutient Manuel Roxa invitent 3 autres candidats pour lutter contre Duterte. Est-ce que Duterte sera un dictateur comme allégué par ses adversaires? Cela sera connu après Rodrigo Duterte est devenu président. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis l'antenne, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la naissance de Salvador Dali. Salvador Dali est né le 11 mai 1904 à Figueres, en Catalogne, où il crée son propre musée en 1974. aussi connu pour son œuvre que pour ses excentricités, Salvador Dali a touché à de nombreux domaines tels que la peinture, la sculpture, la joaillerie, l'architecture, la littérature ou encore le cinéma et le théâtre. Parmi les éléments les plus célèbres de son style, on peut citer la méthode paranoïa-critique ou encore la tridimensionnalité. Il s'est éteint dans sa ville natale le 23 janvier 1989. L'autre information est sur la naissance d'Ismaïl Marzouki. Le 11 mai 1914, Ismaïl Marzouki est né à Kuitang, Jakarta Central. Il est l'un des grands compositeurs de l'Indonésie. Son nom est maintenant immortalisé comme un centre d'art à Jakarta, Taman Ismaïl Marzouki ou TIM, au quartier de Salemba, Jakarta Central. Une chanson qui est plus populaire, composée par Ismaïl Marzouki, Rayuan Pulau Kelapa, est utilisée comme la chanson de clôture de la fin de l'émission par la station de TVRI pendant le gouvernement du Nouvel Ordre. En 2004, il a été couronné l'un des héros nationaux indonésiens. Il avait fondé la banque Empat Sekawan. En outre, il a été connu du public lorsqu'il remplit la musique dans le film « Éclairé par la lune ». Ismaïl Marzouki est mort à Kampung Bali le 25 mai 1958 à l'âge de 44 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Le royaume de Siam prend le nom de Thaïlande ». C'est le 11 mai 1949 que le Siam prend officiellement le nom de Thaïlande, sur décision du dictateur Plaik Pibulsonggram ou Di Pibun, suite à son coup d'État du 8 avril 1948, Thaïlande ou Prathet Thai signifie pays des Thaïs, l'ethnie majoritaire du royaume du Siam. Le mot Thaï signifie par ailleurs libre, alors que le terme Siam provient du sanskrit et qualifié la peau sombre des Thaïs du point de vue des Khmer. Le royaume du Siam avait été fondé en 1350, mais le nom de Thaïlande était utilisé officiellement depuis 1939, déjà sous l'impulsion de Pibun, lorsque ce dernier était premier ministre. Serviteurs, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, pour la rubrique suivante, nous vous présentons maintenant la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « Les riz de Sumatra sont libérés ». Quatre paires ou huit les riz paresseux de Sumatra ou le nom latin Nycticebus tuchang à l'âge de 3 ans sont réintroduits dans la zone de l'unité de la gestion des forêts protégées de Batu Tegi, la région de Tanggamus, Lampung, Langdi. La forêt protégée de Batu Tegi est choisie comme emplacement pour libérer le riz en raison de son statut en tant que zone de conservation, de sorte qu'il puisse assurer la sécurité de le riz des activités humaines. Cette libération a été faite par le Centre du secours et de la réadaptation des animaux de l'Association de l'initiation naturelle de réhabilitation de l'Indonésie, IARI Bogor, qui a pris en soin les animaux qui ont été protégés. Huit primates nocturnes sont le résultat de confiscation du Centre pour la conservation des ressources naturelles BBKSDA de l'ouest de Java à Serang, Banten, en novembre 2013. Ces animaux deviennent alors la preuve confiée à être pris en soin au Centre de réadaptation de Yari au pied du Mont Salak, Curug Nangka, la résidence de Bogor. Depuis l'an 2013, les loris ont subi une série d'examens médicaux, la quarantaine et les phases de réhabilitation telles que l'introduction d'aliments naturels. L'activité, le comportement alimentaire et les études sont également observées et enregistrées par les infirmières des animaux pour assurer que le comportement des loris était redevenu sauvage. Le gérant des soins d'animaux de Yari, vétérinaire Wendy Prameswari, a affirmé qu'il faut nécessiter beaucoup de temps pour réhabiliter les primates des victimes de la traite illégale, compte tenu les conditions initiales de loris quand ils sont au centre de réhabilitation sont assez alarmantes. Ces animaux subissent la déshydratation, le stress élevé, malnutrition, les dents qui sont aussi été coupées. Heureusement, il y a un dentiste vétérinaire qui peut patcher les dents de loris qui ont été coupées, de sorte que les dents sont retournées intactes et les loris peuvent être libérés vraiment. Après avoir achevé la réhabilitation, le primate solitaire a ensuite été déplacé à une habitation en cage dans la forêt protégée de Batu Tegi pour le processus d'adaptation. La forme de la cage habituelle ou la maison provisoire de loris paresseau est une terre ouverte entourée de fibres plastiques, dans lequel il existe différents types d'arbres verts pour nourrir et dormir. Pendant environ un mois, les loris sont laissés à adapter à l'habitat et des aliments naturels. Le coordinateur de l'enquête de surveillance de Yari, Bobby Muhyiddin, a déclaré que l'équipe faisait la surveillance pour savoir le développement du comportement des loris dans une cage habituelle. S'ils montrent le bon développement, cherchent naturellement l'alimentation et peuvent adapter à la nature, ils pourraient vraiment être libérés. Afin de rendre facile la surveillance après être libérés, on installe le collier émetteur sur le cou de loris. Collier émetteur sert un émetteur de signal capturé plus tard par l'antenne et provoque du bruit dans le récepteur de signal. Le son qui sort du récepteur de signal aide l'équipe de surveillance à trouver la présence de loris dans la nature pour être observé leur développement. La translocation de loris dans la forêt protégée de Batu Tegi est une coopération du programme de la conservation de loris entre Yari avec l'unité de la gestion de la forêt protégée de Lampung et la section de la conservation de la région 3 de Lampung du centre de la conservation des ressources naturelles de Bengkulu, Lampung. Serviteur, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le président indonésien Joko Widodo fera une visite bilatérale en Corée du Sud du 15 au 18 mai 2016. Il y aura 6 accords de coopération qui seront signés par les deux pays, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, mardi à Jakarta. Ces accords de coopération, entre autres dans le domaine des industries créatives, la gestion de la tour, l'éradication de la corruption, les sports, le transport et la conception de la technologie. Selon Madame Retno Marsudi, la visite de Jokowi en Corée du Sud sous l'invitation du président Park Geun-hye. Le président assistera aussi à une réunion d'affaires avec des investisseurs de l'État ginseng. Selon le plan, il y aura un forum d'affaires qui sera assisté par 20 grands hommes d'affaires sud-coréens. La plupart sont des hommes d'affaires qui ont investi et ajouteront les investissements en Indonésie. Jokowi sera également le conférencier d'honneur à la conférence sur le leadership asiatique qui se tiendra à Séoul. Le président prononcera un discours sur le thème du leadership et d'innovation. La coopération entre l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie a réussi à identifier l'un des réseaux de la contrebande humaine dans l'ASEAN. Le chef de l'agence d'investigation du commissaire général de la police, M. Anang Iskandar, a déclaré mercredi que ce réseau existe en Indonésie et en Malaisie. et la police a identifié le leader du syndicat qui avait initial S. Selon lui, la naissance de la coopération entre les trois pays en raison de la tension qui se produit souvent. Il estime que le renforcement de la coopération peut contrecarrer la contrebande humaine dans la région de l'ASEAN. Le commissaire adjoint de la police malaisienne, le commissaire adjoint de la police Ni Abdul Aziz bin Ni Abdul Rajak, a déclaré dans une conférence de presse que le Royaume de la Malaisie continuera de faire des échanges d'informations plus profondes avec l'Indonésie et l'Australie afin de minimiser les activités de contrebande. L'officier de liaison de la police fédérale australienne, Andrew Perkin, a déclaré qu'il espérait l'Indonésie et la Malaisie pourraient inviter les pays de la région de l'ASEAN et à l'extérieur de la région pour résoudre ce problème régional. Le gouvernement indonésien et la Chine ont discuté de la fusion de la société de poissons pour éviter la pêche illégale dans certaines régions de l'Indonésie par la Chine. Le ministre de coordination des politiques juridiques et sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan, a affirmé à Jakarta que le gouvernement indonésien étudiait ces règles. Il a dit que l'Indonésie n'avait pas de territoire frontalier avec la Chine. Sur la base de la ligne internationale, n'importe quel pays peut entrer en Indonésie, mais en ce qui concerne les problèmes économiques, les pays étrangers doivent demander la permission à l'Indonésie. Luhut Binsar Panjaitan a ajouté, il discuterait de la possibilité de fusionner la société avec la ministre de la Mer et de la Pêche, Madame Susi Pujiastuti. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La province de Riau aura immédiatement un laboratoire international de la tourbe après l'existence du projet de la signature du protocole d'attente entre l'Agence de la restauration de tourbe ou BRG et des chercheurs japonais à la fin de mai 2016. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur par intérim de Riau, M. Arsa Juliandi Rahman, à Antara, à Pekanbaru, mardi. Il a expliqué que le laboratoire de la tour serait concentré sur la région des îles Meranti, précisément sur l'île de Tebing Tinggi, la ville de Sungai Tohor. Il a dit BRG et le gouvernement provincial de Riau avaient coordonné avec un certain nombre de chercheurs de l'Université de Kyoto du Japon, National Institute for the Humanities et l'Agence japonaise de la coopération internationale ou JICA pour réaliser ce projet. Arsa Juliandi Rahman a déclaré que les chercheurs japonais avaient donné les réponses positives liées à ce plan, qui est prévu pour être signé en mémorandum d'attente à Jakarta à la fin de mai 2016. Selon lui, l'équipe de recherche du Japon se rendra à Riau pour coordonner avec BRG pour réaliser la construction du laboratoire de la troupe à l'échelle internationale. Le ministre indonésien des Finances, M. Bambang Brojonegoro, a affirmé que le Moyen-Orient pourrait être un marché potentiel pour l'Indonésie, qui devient actuellement l'un des pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. Nous pouvons trouver la diversification des marchés et d'exportation au Moyen-Orient en invitant les touristes de cette région pour que l'Indonésie obtienne son impact positif, a déclaré le ministre Bambang. Ainsi, l'Indonésie va profiter de l'élan en tant que l'hôte de la séance annuelle de la Banque islamique de développement du 15 au 19 mai et du Forum économique islamique mondial du 2 au 4 août 2016. Qui seront assistés par les délégations gouvernementales et le secteur privé. C'est une stratégie de l'Indonésie de trouver le réseau et d'être plus proche avec les pays du Moyen-Orient et les pays africains avec la plus grande population musulmane. Le président de la fondation de WIF, Tun Musa Hitam, a déclaré que l'Indonésie pourrait être l'hôte idéal parce que l'Indonésie a des similitudes avec le thème de WIEF 2016, à savoir décentralisation de croissance, autonomiser les futures affaires. Et selon lui, l'Indonésie est un marché en pleine croissance avec des fondamentaux économiques solides et possède un certain nombre de PME qui ont le potentiel de se développer à l'échelle internationale et d'ouvrir plus de possibilités pour faire des affaires avec la communauté globale. L'Indonésie a participé au deuxième salon commercial de nourriture d'Afrique 2016 au Caire, en Égypte, qui a été officiellement ouvert par le ministre du Commerce de l'Égypte, Tariq Kabel. Le salon, qui a eu lieu du 4 au 8 mai 2016 au Caire Convention Center, le Caire, a été assisté par 240 exposants et visité par environ 15 000 personnes. Les visiteurs pouvaient goûter le café Arabica et Robusta à partir des meilleurs grains de café de l'Indonésie provenant de Sumatra, Java, Bali, Flores, Sulawesi et Papouasie. Les exportations de café de l'Indonésie à l'Égypte, selon le rapport de l'agence statistique CAMMAS, l'Égypte se classe encore au premier rang, qui atteint 34,18 millions de dollars américains en dernières années. Les importations totales de l'Égypte dans le monde à 64,72 millions de dollars américains. L'ambassadeur d'Indonésie au Caire, M. Helmi Fauzi, soutient le salon commercial qui présente des produits de grains de café indonésiens, des produits de café transformés, l'huile de palme et ses dérivés, ainsi que des produits de collation. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à Magelang, en province de Java Centre. Chers auditeurs, une visite à Borobudur, le plus grand temple bouddhiste dans le monde, peut être une expérience incroyable et inoubliable. Beau, magique et sacré, pas assez de mots décrivent le caractère unique du sanctuaire qui a été construit dans le 9e siècle. Après être satisfait d'explorer et d'observer le relief partout sur les parties du temple, il y a d'autres façons de profiter de la beauté du temple de Borobudur qui est situé à Magelang, central Java. Regardez le temple de Borobudur lorsque le soleil se lève sur la colline Puntuk Setumbu fera de votre visite en Indonésie plus mémorable et inoubliable. Puntuk Setumbu est une colline avec la hauteur d'environ 400 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le groupe des montagnes Menore. Autrefois, cet endroit est la rizière appartenant à la population. Le pic de Puntuk est sous la forme de la cour entourée de clôtures. Cet endroit est devenu un lieu favori pour les photographes d'immortaliser le Borobudur lors du lever du soleil. Non seulement les photographes, les gens et les touristes profitent également de la beauté du temple avec 72 stupas de hauteur. Ces derniers temps, la colline Puntuk Setumbu est de plus en plus populaire pour être le lieu de tournage du film « Ada Apa Dengan Cinta » la deuxième partie. La fatigue du voyage à la colline va disparaître tout en voyant le Borobudur brumeux sur fond du soleil apparaissant de derrière la montagne. Serviteurs, vous pouvez également camper sur la colline Puntuk Setumbu. L'étendue de la colline Puntuk Setumbu est moins du terrain de basket. Il y a gazebo, la poste d'observation et une chaise pour se reposer. Ne pas oublier d'apporter votre appareil photo parce que vous ne voulez pas manquer l'occasion de capturer le paysage incomparable. Vous serez étonné de la beauté et la grandeur de Borobudur de la colline de Puntuk Setumbu. Serviteurs, pour ceux qui veulent voir la beauté de Borobudur par l'intermédiaire Puntuk Setumbu, le meilleur moment est avant 5h du matin. Puntuk Setumbu est situé non loin du temple de Borobudur, précisément dans le hameau de Kerahan, le village Karangrejo, Magelang. Du pied de la colline, vous devez marcher pendant environ 15 minutes pour atteindre le sommet de la colline. Le meilleur moment pour venir à cet endroit est pendant la saison sèche, autour de juin à août. Dans ces mois, le soleil peut être vu clairement. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Puntuk Setumbu. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique Apprendre l'indonésien. Ce soir, notre sujet est Undangan ke pesta ou en français, invitation à une fête. D'abord, je vais vous introduire le vocabulaire et les expressions reliées au sujet aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous répétez après moi. Undangan. Undangan. En français, invitation. Sibuk. Sibuk. En français, occupé. Datang, datang, en français, venir. Rumah, rumah, en français, maison. Pesta, pesta, en français, fête. Hadir, hadir, en français, assister. Lulus ujian, en français, passer l'examen. Teman, 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 en français, les amis. Berkumpul, berkumpul, en français, réunir. Maintenant, je vais donner un exemple d'une conversation intitulée Undangan ke pesta ou en français, invitation à une fête. Comme d'habitude, je vais prononcer phrase par phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi cette conversation entre Tono et Rudy. Tono, jika malam minggu mendatang Anda tidak sibuk, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke rumah saya. Tono, jika malam minggu mendatang Anda tidak sibuk, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke rumah saya. En français, si vous n'êtes pas occupé au samedi soir, je voudrais vous inviter à venir chez moi. Rudy, untuk apa? Untuk apa? En français, pourquoi faire? Tono, saya akan mengadakan sebuah pesta. saya harap Anda bisa hadir. Tono, saya akan mengadakan sebuah pesta. Saya harap Anda bisa hadir. En français, je vais organiser une fête. J'espère que vous pouvez assister. Rudy, tentu saya akan datang. Tentu saya akan datang. Ngomong-ngomong, mengapa Anda mengadakan pesta? Ngomong-ngomong, mengapa Anda mengadakan pesta? En français, bien sûr, je viendrai. Par ailleurs, pourquoi avez-vous organisé une fête? Tono, karena saya telah lulus ujian. Karena saya telah lulus ujian. En français, parce que j'avais passé mon examen. Di samping itu, saya belum pernah mengundang semua teman-teman saya untuk berkumpul di rumah saya. Di samping itu, saya belum pernah mengundang semua teman-teman saya untuk berkumpul di rumah saya. En français, en outre, je n'invite pas encore tous mes amis de se réunir chez moi. Rudy, jam berapa pesta itu dimulai? Jam berapa pesta itu dimulai? En français, à quelle heure la fête sera commencée? Tono, pukul 8. Tapi, Anda harus berada di sana pukul 7. Tono, pukul 8. Tapi, Anda harus berada di sana pukul 7. En français, à 8h. Mais vous devez être là à 7h. Rudy, baik. En français, d'accord. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, Sylvie Lazami, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions, surtout le magazine de musique. Et vous pouvez entendre nos émissions via émetteur à Ancourt sur 9525 kHz ou bien avec le streaming audio sur www.voi.co.id ou via l'application RRI Play sur votre gadget ou portable. Pour cette édition, on vous présente la chanteuse Ari Kusmiran. Bon, comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson Ari Kusmiran intitulée Setulus Hatimu. Bonne écoute.
Selama hidupku, saya percaya.
Servitel zami, ari kusmiran ekono ozane swasangdis. Elene o weng avril 1958 a Sidoarjo en profang de Zafadales. Et vous savez, quand elle était petite, elle a gagné le festival de star en profang de Zafadales pendant 3 ans. Après avoir le succès, la compagnie musicale a fait le contrat avec ari kusmiran pour son premier album, intitulé Kenangan Desember. La fortune de ari kusmiran est grâce au compositeur Isarianto, Arianto et Barca van Houten. Et aussi grâce à son succès, ari kusmiran a fait le tour à l'étranger. Il a participé au festival du film asiatique en 1977 à Singapour, puis il est parti pour les Philippines pour le festival asiatique de Samsung. Dans ce festival, ari kusmiran présente la chanson javanaise intitulée Romo Onomaling, composée par Titi Puspa. Elle est duo avec le chanteur Ade Manuhutu. Puis, elle a continué son voyage à Suriname, aux Pays-Bas, pour faire le concert. Bon, chers amis, avant de continuer, écoutez encore la chanson du tepian sungai Babylone chantée par ari kusmiran. Bonne écoute.
Di tepian sungai Babylon, ku berjumpanya awal Desember tahun yang lalu. Di tepian sungai Babylon, cinta terjadi yang tak mungkin.
Chers amis, après avoir connu dans le monde de la musique, Hariko Smiran essaie de jouer la scène à la grand écran. En 1979, elle a joué au film de jeunesse Binalnya Anak Muda, Kita Cinta dari SMA et Arjuna Mencari Cinta. De même, à cette époque-là, elle a gagné le prix dans le monde de musique de la compagnie Remako. Bon, chers fidèles amis, avant de terminer notre rencontre dans le magazine de musique édition de vendredi, écoutez deux dernières chansons de Hariko Smiran intitulées Kenangan Desember. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Oh,
c'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.